RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous, bien évidemment. Les grandes gueules avec aujourd'hui Charles Consigny, Elina Dumont, Charles l'avocat, Elina l'intervenante sociale et Antoine Dierce, Antoine le consultant juridique. C'est la deuxième heure des GG des grandes gueules. N'oubliez pas que les grandes gueules seront demain au salon de l'agriculture, de retour sur le stand des Hauts-de-France, demain et vendredi. Mais tout à l'heure, c'est Estelle Denis qui sera avec toute son équipe aussi au stand des Hauts-de-France, au salon de l'agriculture. Donc ça, c'est trois rendez-vous qu'on vous donne. Profitez-en, passez voir Estelle cet après-midi, tout à l'heure de midi à 15h, et passez nous voir demain au stand des Hauts-de-France entre 9h et midi, jeudi, vendredi. C'est la deuxième heure des GG des grandes gueules. De quoi va-t-on parler? On va parler de la femme, l'épouse de Bernard Arnault, qui s'interroge et se demande où va l'argent. Hélène Mercier-Arnault, la femme de l'homme, l'un des hommes les plus riches
dans sa poche. Arrête, Antoine.
Elle s'interroge, elle dit bon, on paye beaucoup d'impôts en France, mais il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Elle dit on devrait pouvoir savoir où vont nos impôts. C'est ce que dit l'épouse de Bernard Arnault. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ou est-ce que c'est indécent? Mais puisqu'on parle d'argent, puisqu'on parle gros sous, puisqu'on parle pognon, puisqu'on parle pépette, parlons de l'argent des municipalités et des budgets. On aime le cash. Je vous conseille l'enquête de nos confrères du Parisien. Qui est intéressante d'aujourd'hui en France, le Parisien,
sur RMC Story.
Les grandes villes qui sont plutôt bien ou mal gérées. C'est une longue enquête avec un tableau comparatif de ces villes qui ont les finances dans le rouge ou celles qui sont en vert, celles qui s'enfoncent et celles qui se redressent. Parce que si la priorité des Français pour les prochaines élections municipales, c'est notamment la sécurité, et puis aussi les transports, les travaux. Ensuite, les Français, quand ils voient arriver leurs impôts locaux, ils râlent. Mais les impôts locaux, ça dépend aussi du budget et d'investissement des villes. Et puis là, les grandes villes, certaines ne s'en sortent pas.
J'ai envie de dire que le constat est accablant pour les 12 plus grandes villes françaises qui ont été passées au crible par l'Institut Montaigne. Parce que toutes ces villes sont endettées. Et dans toutes ces villes, on a augmenté les impôts. C'est-à-dire que c'est formidable. C'est-à-dire que les impôts locaux ne cessent d'augmenter. Et la ville s'endette de plus en plus, parce qu'on pourrait imaginer que les impôts augmentent pour rembourser la dette, pour réduire les finances publiques. Non, c'est-à-dire que c'est une fuite en avant. Alors, dans ce marasme total, et vraiment, il faut avoir ces chiffres en tête avant d'aller voter dans moins de 3 semaines, je trouve, à Toulon, à Montpellier, à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, Marseille ou Paris, dans ces villes-là. Mais il y a quand même 2 villes qui ont essayé de faire des efforts, 2 maires, un maire socialiste, le maire de Montpellier, M. Delafosse, et un maire centriste, aujourd'hui, Macronie, je ne sais plus trop comment il est, Horizon, le maire de Nice, Christian Estrosi. Mais bon, les 2 villes restent endettées, mais ils ont fait des efforts. Et alors, le pompon, c'est Paris, qui est pourtant la ville la plus riche de France. Paris, c'est un budget de 12 milliards d'euros, vous imaginez. Donc, il y a de l'argent à Paris. Bon, les impôts ont augmenté, et pourtant, la dette aussi. 10 milliards d'euros de dette. Ça veut dire que Paris, la ville de Paris, paye chaque année 300 millions d'euros d'intérêts sur cette dette, de l'argent qui pourrait servir à autre chose. Ce qui est frappant, c'est que on pourrait se dire c'est de l'investissement, etc. Non, ce sont des dépenses de fonctionnement qui explosent. C'est-à-dire que quand les candidats et notamment les candidats sortants nous expliquent oui mais c'est l'investissement, non, souvent c'est du fonctionnement. C'est
pour faire tourner la ville.
C'est pour faire tourner les employés qu'on embauche, etc.
Marseille plus 27% des dépenses.
Les associations qu'on finance, parce que alors ça il faut savoir que ces grandes villes financent beaucoup d'associations, peut-être trop. Bref, c'est une dette inquiétante, notamment à Paris. Et alors quand vous entendez tous les candidats nous expliquer oui moi avec moi ça sera plus de caméras de vidéosurveillance, plus de policiers, plus de pistes cyclables, etc. Mais dites-leur, oui, mais avec quel argent?
C'est pas cher, c'est nos impôts qui payent.
Et qui continuent donc à monter.
Et c'est ce que je me dis à chaque fois que je vais dans des grandes villes. Je vois la réfection du trottoir, le projet de nouvelle médiathèque, le projet de machin. Et à chaque fois, je me dis mais d'où vient cet argent? Pourquoi on engloutit autant de sommes d'argent? Tu vois aussi tous les nouveaux bâtiments publics là à Dunkerque. Je vois écosystème, je sais pas quoi, pour héberger l'activité économique. On crée des bâtiments publics. Et donc une fois que t'as investi cet argent, tu crées des charges. Mais en réalité, comme je le dis souvent, c'est un peu la faute des électeurs. Parce que tu votes pour un maire à condition qu'il ait inauguré plein de bâtiments durant son mandat, qu'il ait refait les routes, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? Moi, je suis un contribuable, je paye une taxe foncière en centre-ville de Dunkerque, 1300 ou 1400 euros par an. Et je me dis, mais enfin, arrêtez de nous refaire les routes tout le temps, arrêtez de créer des bâtiments publics et diminuez les taxes. Mais est-ce que les électeurs réfléchissent comme moi? Je suis pas sûr. En réalité, l'électeur, il vote à chaque fois qu'il voit un nouveau truc inauguré, etc. Et donc, c'est comme ça que tu crées de la dépense publique. Continue, tout le temps.
Et il faut pas dire que l'État ne donne pas d'argent, puisque ce que l'État donne aux collectivités.
C'est
locales,
au moins 50% de son budget, la DGF.
Au total, l'enveloppe de fonctionnement. Au total, c'est 150 milliards.
Bien sûr.
150 milliards. Alors,
une enveloppe qui va être un peu réduite.
Oui.
Et alors, ils ont hurlé. Les maires hurlent. Oui, on n'a plus d'argent.
Faire des économies.
C'est l'impossibilité de faire des économies.
Elina.
Écoute, c'est vrai que ça pose vraiment question. Et je me posais aussi la question par rapport à certaines villes. Parce qu'il y a des villes quand même, par exemple. Moi, j'ai toujours dit tout a un coût. Peut-être, par exemple, les villes où les cantines sont gratuites. Bon, vous allez me dire, beaucoup de gens sont pour, mais ça a un coût. Et voilà, faut bien acheter les produits, payer les salariés. Certains sont pour les transports gratuits sous certaines conditions. Peut-être que tout ça, en fait, on devrait le payer. Enfin, les villes où ça a lieu.
Ouais. Enfin, c'est toi qui paye. Enfin, c'est toi qui paye.
En réalité, le contribuable, il paye deux fois dans certaines villes. Il paye beaucoup d'impôts et en plus, sur la question des cantines, s'il est aisé, qu'il a déjà payé des impôts, il sera parmi ceux qui doivent payer plus cher la cantine que les autres.
Ouais.
Donc, je suis d'accord avec ton raisonnement, mais en plus, il y a un effet ciseau pour ceux pour qui c'est toujours gratuit, qui payent pas d'impôts, et pour ceux qui payent des impôts et en plus qui vont payer plus cher. Avec les effets coefficients familiaux,
Charles. Non, mais à Paris, par exemple, on sait, maintenant c'est largement documenté, à quel point il y a eu un gaspillage d'argent public qui est énorme, que ce soit les subventions à des associations débiles, les subventions à des projets lunaires à l'étranger, les Russes du Togo, les basketteurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée, enfin des trucs hallucinants. Les emplois fictifs, je veux dire, Madame Pulvar est toujours en poste comme adjointe à l'agriculture de la mairie de Paris. J'aimerais bien qu'elle vienne nous expliquer de quelle agriculture, quelle est l'agriculture qu'elle gère à son poste d'adjointe à l'agriculture. Quel champ agricole dans Paris, Madame Pulvar,
sur les toits, le champ de Mars,
supervise-t-elle? C'est vraiment, je pose la question. Je pense qu'on est quand même dans le foutage de gueule.
C'est l'emploi fictif,
pur et simple, je pense. Bah, en tout cas, ça y ressemble. Ça ressemble à un emploi fictif. J'aimerais qu'elle nous explique qu'est-ce qu'elle fait concrètement.
Si Audrey Pulvar nous écoute,
comme adjointe à l'agriculture à la mairie de Paris, en quoi est-ce qu'il faut qu'on la paye pour gérer l'agriculture de Paris intramuros? Je n'ai pas vu là. Je me balade souvent dans Paris, me déplace souvent. J'ai pas vu beaucoup de champs de colza ni d'élevage de bœufs. Mais peut-être
qu'il y a quelques bœufs à Paris quand même.
Je demande à voir. Ensuite, il y a dans le reste du pays, on le voit très souvent, des dépenses absurdes. Il ne faut pas occulter quelque chose qui, à mon avis, est très sous-estimé, c'est le détournement d'argent public, tout simplement. Puisque les travaux, très souvent.
Qu'est-ce que tu appelles détournement?
Parce travaux.
Ça, c'est illégal.
Là, c'est l'avocat qui vous parle. Très souvent, les dépenses de travaux publics sont l'occasion de sortir de l'argent public d'une manière assez opaque qui permet de redistribuer ensuite cet argent. Ça vaut d'ailleurs aussi pour les associations. Très souvent, les associations servent en réalité à redistribuer de l'argent pour faire du financement politique ou pour faire de l'enrichissement personnel. Quand on s'étonne de certaines subventions à des associations, il n'y a pas besoin de gratter beaucoup. Souvenez-vous de l'histoire du fonds Marianne, par exemple, qui impliquait notamment Madame Schiappa. On s'est aperçu que c'était en réalité de l'argent qui était détourné. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'associations et c'est le cas pour beaucoup de travaux publics qui ne sont qu'une manière de décaisser de l'argent. Ça, c'est un sujet. Et enfin, dernier sujet, effectivement, le double coût des choses pour les administrés, pour les contribuables, et notamment la prise en charge de dépenses qui, à mon avis, peuvent être regardées. Moi, j'avais pris l'exemple des cours de pipeau de Chantal. Souvenez-vous des cours de pipeau de Chantal. Un reportage de France 2 avec des trémolos dans la voix nous expliquait que Chantal, retraitée, je crois que c'était à Cholet, si ma mémoire est bonne, n'aurait pas pu prendre ses cours de pipeau si elle avait dû les payer au vrai prix. Pourquoi ? Parce qu'au vrai prix, c'est très cher, les cours de pipeau, bien évidemment. Mais donc, c'était pris en charge par la municipalité, ça lui permettait de payer quasiment pas cher.
Moi, je suis désolé,
mais si j'étais maire de la ville en question, je supprimerais la subvention aux cours de pipeau et j'inviterais Chantal à se démerder toute seule et à regarder un tuto sur YouTube pour apprendre à faire du pipeau si elle y tient tellement. Mais je pense qu'on n'a pas
si
à
Chantal
payer
nous
pour
regarde,
ça.
Chantal, peut-être qu'elle a progressé en pipeau. Mais moi, je pourrais prendre un exemple, le logement à Paris, parce que c'est la façon dont on utilise notre argent public. Est-ce qu'il est bien utilisé? La mairie de Paris a acheté à prix d'or des immeubles dans Paris pour en faire du logement social. Mais alors, au prix du marché, donc ça coûte une fortune puisque l'immobilier a explosé à Paris. Donc on se retrouve à une dépense. C'est d'ailleurs en grande partie la dette vient de là. C'est une dette liée à la politique du logement.
L'investissement dans l'immobilier, c'est 2 milliards
et demi. Pourquoi ? Pour construire à chaque fois 24 logements sociaux. C'est pas des choses. Mais en coûte, ça mange plusieurs millions d'euros d'achat. Ensuite, il faut rénover, il faut réhabiliter. On donne ça au logement social. Bon, est-ce que vraiment c'est une bonne politique? Je suis pas sûr. Alors qu'à Paris, il y a plein de bâtiments publics qui sont vides, qui pourraient être réhabilités, etc. Mais il y avait un peu une envie idéologique de dire, attendez, on va s'en prendre au privé, on va aller dans des arrondissements où il y a peu de logements sociaux, notamment les arrondissements de l'Ouest. Mais voilà. Ces genres de dépenses qui ont, en grande partie, vidé les caisses de Paris.
Je vais te dire un truc. Là, on a lancé une proposition de loi par rapport justement au logement vacant. Je suis complètement d'accord avec toi, mais je peux t'assurer qu'il y a toute une catégorie de députés, dont l'extrême droite et la droite dure. Ils refusent.
Non, mais moi je dis pas logement vacant privé. Moi je dis logement vacant public. Pardon.
Vacant
à Paris.
Public, je parle aussi.
À Paris, il y a beaucoup de bâtiments à la fois municipaux et de l'État qui sont vides, qui ne servent à rien.
Je suis d'accord. Moi,
et donc ils pourraient très bien être réhabilités. L'État pourrait d'ailleurs, pourquoi pas le donner ou faire un bon prix à la mairie de Paris. Mais c'était idéologique. L'idée, c'était d'aller, par exemple, acheter des apparts, des immeubles dans le 16e arrondissement, ou Place des Vosges, Place des Vosges. Ça coûte une blinde. Et vous comprenez, on aura mis des pauvres chez les riches, ça leur fait les pieds. C'est, en gros, c'est ça. On en est un peu là.
Olivier,
je suis pas sûr que ça soit très efficace.
Je voudrais juste rajouter
alors
un truc.
Alors qu'il faut loger les gens à Paris.
Vas-y. Pour contredire ce que vient de dire Charles. Par rapport aux associations, alors moi je travaille que dans le monde associatif.
J'ai pas dit que toutes les associations servaient à faire du financement
mais
politique.
Sache que là,
mais
depuis,
je sais qu'il y en a.
Peut-être, mais sache que depuis les coupes budgétaires, il n'y a jamais eu autant de licenciements dans les associations, voire il y en a qui vont disparaître. Et il y a même des grosses institutions, des associations institutionnelles qui ont été obligées de faire du licenciement. Est-ce que tu dis peut-être ça existe? Bon, moi je l'ai pas vu, mais je peux t'assurer que là ça va très très mal pour le monde associatif actuellement.
Le remboursement des intérêts de la dette à Paris, c'est 300 millions d'euros par an. Nous sommes avec Olivier, il nous appelle de Béziers. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
On regarde un peu ce panorama, ce palmarès des villes endettées, des villes bien gérées. Qu'en est-il à Béziers alors, dites-moi?
Écoutez, sur le dernier mandat du maire actuel, la dette a augmenté de 20%. Elle était d'à peu près 100 millions et allait dans les 123 millions de dettes. Ça, c'est les chiffres de 2024. Mmh. Et donc, vous parliez de faire du beau. Alors, effectivement, il y avait un besoin à Béziers de vraiment de rénover. Ça, là-dessus, il y a aucune contestation possible. Donc, il a rénové vraiment l'hypercentre. Esthétiquement, c'est très, très beau. Mais à côté de ça, malheureusement, le taux de pauvreté de la ville reste le même. D'un point de vue économique, il n'y a pas eu d'enrichissement particulier. En tout cas, cette dette n'a pas produit de bénéfices pour la ville. Et malheureusement, malgré ces investissements dans la police, la sécurité, quand on voit les chiffres de la délinquance qui ont augmenté, on est quasiment à 6 000 crimes et délits maintenant sur la ville de Béziers. Mmh. On dit que le beau, c'est bien. Malheureusement, ça ne fait pas tout. Et je pense qu'il est important de voir les choses un petit peu autrement.
Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, moi, on peut investir, mais derrière, il faut faire des économies. En fait, la difficulté, d'ailleurs, ça a été le problème de Macron pendant 10 ans. C'est-à-dire que il a baissé certains impôts, mais il a pas fait d'économies à côté. Mais donc ça fait exploser les déficits.
Mais Olivier, les impôts locaux ont augmenté.
Oui, bon. Les impôts locaux ont augmenté, bien sûr. Mais ça, je veux dire, les impôts
bien
locaux,
sûr, comme si c'était évident.
Oui, mais là, Olivier, du coup, si vous et les Biterrois ne sont pas satisfaits de ce qui s'est passé à Béziers, les élections municipales sont là pour ça. Justement, pour sanctionner le maire sortant, c'est donc Robert Ménard. Puis peut-être prendre une alternative politique et dire, ben voilà, au candidat et à la liste qui vous promet de désendetter la ville, faire des économies autres, Olivier.
Après, je dirais que la dette, en fait, je pense qu'il faut distinguer deux types de dettes. Il y a la dette vertueuse qui va créer de la richesse, où là, effectivement, endetter une ville, c'est pas forcément gênant d'endetter une ville. Si jamais vous ramenez l'économie derrière.
C'est le bon mauvais cholestérol.
Ça. Je veux dire, si d'ailleurs vous aviez ramené de la richesse, ça serait pas dérangeant. Simplement, la ville est toujours aussi pauvre que ce qu'elle était avant, et c'est là où moi ça me dérange. Donc oui, bien sûr, il faut reprendre. Et après, il n'y a pas que les impôts locaux ont toujours été chers à Béziers. Voilà, enfin, en tout cas, depuis que j'y suis,
c'est bien pour ça. Il y a pas l'entreprise.
Ouais, il y en a plein qui ne payent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Déjà, voilà, les gens ne payent pas forcément, il n'y a pas de propriétaires qui vont la payer, l'assiette fiscale est très basse, il y a 30% des gens qui payent l'impôt sur Béziers, je crois, de tête, donc forcément, il faut élargir cette assiette fiscale, c'est pas simple, il faut ramener des gens qui travaillent, il faut créer de l'emploi, il faut créer des...
Mais vous dites, il y a un bon investissement, le problème, c'est que cet investissement se fait sur l'emprunt, pas sur la baisse des dépenses, c'est d'ailleurs ce que dit l'Institut Montaigne, c'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire qu'on emprunte pour investir, or on devrait baisser les dépenses, et puis là, les économies dégagées servent à investir, c'est ça une bonne gestion.
Olivier, on va continuer notre discussion et je vous renvoie justement vraiment à cet article de nos confrères aujourd'hui en France, Le Parisien, juste avant les élections municipales. C'est intéressant de voir les coûts de fonctionnement, les dépenses.
Et dans un instant, les belles promesses, ça fait voter.
Et dans un instant, justement, on sera avec la directrice de l'Institut Montaigne. Sont eux qui ont passé au crible les villes, qui ont regardé ce qu'on dépense. Ce sont essentiellement des dépenses de fonctionnement, des dépenses de recrutement aussi d'agents municipaux qui n'ont cessé d'augmenter. Alors aujourd'hui, les villes bien ou mal gérées, on en discute avant les élections municipales. Un premier tour 15 mars, deuxième tour le 22 mars. On en discute avec vous au 32-16. Là, Olivier nous a appelé de Béziers, avec les grandes gueules, avec Elina Dumont, avec Charles Consigny et avec Antoine Diers, en direct sur RMC et RMC Story, il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4. Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC et RMC Story, les grandes gueules qui s'intéressent aux élections municipales ou plutôt aux villes qui sont bien ou mal gérées. Ça, c'est un véritable enjeu parce que quand on regarde les priorités des Français, les priorités de vote pour les élections municipales, certes, il y a la sécurité, mais il y a aussi les finances, les impôts locaux, la manière dont la ville est gérée. C'est un grand article du Parisien qui s'appuie sur ce que dit l'Institut Montaigne. Et c'est Marie-Pierre de Bailliencourt qui est avec nous, directrice de l'Institut Montaigne. Bonjour Marie-Pierre de Bailliencourt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui fait que la dette des villes se creuse? Alors, quel est le motif principal?
Il y a d'abord un motif d'inefficience de gestion en général, donc beaucoup d'embauches de fonctionnaires, des temps de travail assez limités, et puis il y a évidemment beaucoup d'investissements. Alors des investissements d'infrastructures, des investissements scolaires, des investissements environnementaux, mais le problème que l'on constate, c'est qu'il y a une décorrélation entre des promesses et une surenchère de promesses électorales de la part des candidats et les moyens qu'ils ont en face de traiter et de financer correctement ces promesses, puisque beaucoup de nos grandes villes sont surendettées et que les impôts locaux ont globalement déjà augmenté de 9% dans la précédente mandature pour financer justement toutes ces dépenses. Vous savez qu'à Paris, par exemple, la taxe foncière a augmenté de 52%, et pourtant Paris est la ville la plus endettée de France.
Oui, mais alors quand j'entends ceux qui sont actuellement les élus parisiens, d'ailleurs certains se présentent à la succession d'Anne Hidalgo, ils disent mais c'est pas grave, les agents de nos stations continuent à bien nous noter à Paris, donc on peut continuer à s'endetter parce que c'est du bon endettement.
Alors, vous avez raison, il y a un mauvais endettement et un bon endettement. Le bon endettement, c'est celui qui prépare l'avenir. Le mauvais endettement, c'est celui qui maintient un train de vie qui n'est pas soutenable. Ce que les candidats oublient souvent, c'est que ces mairies, ces municipalités, elles vivent de dotations de l'État, c'est-à-dire d'un transfert d'argent national vers le bloc communal. Et aujourd'hui, vous connaissez l'état des finances de la France, il y a une obligation de stabiliser notre dette. Et donc, pour stabiliser la dette de la France, la charge de la dette de la France, il va falloir faire des économies. Et donc, les municipalités vont être concernées par cet effort. Et il est étonnant de constater que quasiment très très peu de candidats vont sur la trajectoire de l'effort à faire pour stabiliser les finances.
Non, c'est même le contraire, parce qu'on les entend faire de grandes promesses. Alors l'un va proposer les transports gratuits dans sa ville, l'autre va dire on va aménager des voies supplémentaires pour les vélos, on va refaire des places, des caméras de vidéosurveillance. Moi, je ne vois d'ailleurs à gauche comme à droite et au centre que des dépenses supplémentaires annoncées.
Tout à fait, comme si la seule manière de gagner, c'était de promettre toujours plus. Voilà. Donc il n'y a pas de réflexion sur la vision globale et sur la France dans laquelle on veut vivre. Et nous, Montaigne, on considère que ce n'est pas forcément très responsable et qu'il y a un devoir de la part de nos élus à proposer des choses finançables.
Mais un devoir aussi de la part des électeurs, parce que les élus, ils répondent aussi à une demande. C'est-à-dire que j'imagine, si le candidat arrive et dit, écoutez, moi pendant 6 ans, pas une seule dépense supplémentaire, on va faire des économies, à mon avis, il est sûr d'être battu. Hein.
Non, mais si on pose les choses en termes d'arbitrage, est-ce que vous voulez la gratuité de votre transport local ou est-ce que vous voulez que ce transport il soit rénové, il soit sécurisé, il soit propre, il soit étendu pour vos déplacements pendulaires ou est-ce que vous voulez qu'il soit gratuit? On se rend compte que souvent, les citoyens ne demandent pas la gratuité des transports et pourtant c'est ce qui est systématiquement proposé dans plusieurs villes.
Mais il y a aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui on a du mal à s'y retrouver entre la commune, les communautés de communes, les métropoles. Et on ne sait plus qui fait quoi. En revanche, ils embauchent tous dans ces collectivités territoriales, quoi.
Absolument. Alors j'invite vos auditeurs à lire un rapport qu'on a publié il y a une dizaine de jours avec Jean-Dominique Senard et Jean-Luc Bourlange qui s'appelle « Responsabilité, plaidoyer pour l'action » et qui justement dénonce cette confusion entre les différents périmètres de l'action publique et cette superposition des strates administratives. Et comme plus personne ne sait qui fait quoi, plus personne n'est responsable de rien. Et donc, on milite, nous, pour ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire la responsabilisation de ceux qui décident et de ceux qui font.
Mais attendez, en plus, ces communautés de communes et ces communes, elles recrutent toujours.
Alors oui, il y a très très peu d'effets d'échelle, si je puis dire, ou d'optimisation, de mutualisation d'efforts. On a vu précisément qu'il y avait 125 000 fonctionnaires territoriaux qui avaient été recrutés en plus ces 3 dernières années pour au titre des intercommunalités et qu'il n'y a eu que 25 000 réductions d'effectifs auprès des communes. Donc l'intercommunalité ne mutualise pas les moyens.
D'accord. Et tout le monde fait son temps de travail, ses heures de travail ou pas?
Alors, c'est assez aléatoire. Il y a plusieurs audits de la Cour des comptes, des Cours des comptes régionales, qui dénoncent justement une inefficience de l'action publique. Après, il faut faire attention aux généralités, mais globalement, il y a de quoi faire mieux avec moins, oui.
Merci d'avoir été avec nous, Marie-Pierre de Bayancourt, directrice de l'Institut Montaigne. Je sais que vous êtes en pérégrination du côté du Salon de l'Agriculture,
Absolument,
je crois.
Absolument, c'est important de parler au terrain.
Merci d'avoir pris quelques instants pour nous.
Je rebondis sur ce que je posais comme question, parce que je pense qu'il y a bien sûr la responsabilité des élus qui ne sont pas raisonnables, mais il y a aussi les électeurs. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire aux belles promesses. Il faut aussi arrêter de...
C'est ce que je disais en
début. J'écoutais encore hier soir le débat à Lyon. Même Jean-Michel Aulas, qui se présente comme étant peut-être le plus sérieux dans la gestion des deniers publics, lui-même promettait la gratuité des transports en commun pour ceux qui gagnent moins de 2 500 euros. Donc même lui, il est dans cette logique.
Mais nous sommes arrivés dans un certain nombre de villes au point où il y a moins de 50% de contribuables. Moins de 50% des habitants payent de l'impôt.
Oui, donc
tu ajoutes à cela les agents de la municipalité à qui tu vas promettre juste avant l'élection une augmentation, etc. Et donc tu as une majorité de gens qui ne payent pas d'impôts. Donc forcément que plus personne te dit qu'il faut baisser les impôts, ou du moins majoritairement on te dit plus qu'il faut baisser les impôts, puisque majoritairement les gens n'en payent plus. Et ça retombe toujours sur les mêmes.
On a Romain qui va en discuter avec nous, il appelle de La Rochelle. Bonjour Romain.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue sur RMC, RMC Story. Qu'est-ce que vous en dites alors, Romain, de ces endettements de ville? Alors, dites-moi.
Moi, je pense dans un premier temps qu'il ne faut pas en vouloir aux communes, mais plutôt au système qui est national. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, une commune va recevoir pour l'année une subvention. On va dire, par exemple, une petite commune reçoit, je dis n'importe quoi, 50 000 euros. S'il ne dépense pas l'intégralité de cette subvention sur l'année, son budget de l'année suivante, il est réduit.
Je suis pas sûr de ça.
Écoutez-moi, vous travaillez dans le marché DGF, public. Hein. À chaque fois, on me dit qu'il y a une queue budgétaire et qu'il me faut faire tel devis parce que sinon, l'année prochaine, on n'a pas la même subvention.
Le service verra son budget restreint, mais la commune, elle va toujours toucher la même DGF, donc dotation globale de fonctionnement versée par l'État. Mais effectivement, le service qui n'a pas dépensé tout son argent.
Est-ce qu'il serait peut-être pas mieux de se dire on récompense une commune qui a fait des économies sur l'année? Et on lui alloue peut-être un budget supplémentaire sur lequel, lui, il pourra avoir un projet...
S'il fait les économies, elle va conserver l'argent qu'elle n'a pas dépensé, la commune. On peut être vertueux.
Je
vous le confirme.
Je voulais parler d'un autre sujet qu'on ne parle pas beaucoup, c'est l'UGAP. Mmh. L'UGAP, si je ne dis pas de bêtises, l'UGAP, il appartient...
C'est quoi ? Il faut expliquer ce que c'est. Alors toi qui as été
c'est un groupement de
commandes directeur publiques. De cabinet.
Une centrale d'achat en gros.
Voilà, c'est une centrale d'achat en fait pour toutes les choses que tu veux acheter, y compris une cafetière, une chaise. Tu dois passer par un marché public. Et donc la commune, au lieu de lancer un marché public pour acheter une chaise, va commander sur le catalogue de l'UGAP qui a lancé elle un marché public au niveau national pour l'ensemble des communes.
Oui, mais lui, alors donc la commune passe par l'UGAP, passe par ceux avec qui ils ont fait des accords. Et derrière,
et
en fait,
l'UGAP
prend une marge.
Trois fois le prix.
Oui, c'est ça. Et ce qu'ont dénoncé des maires, c'est donc une obligation de passer par l'UGAP.
Pour tout, tu dois avoir une procédure de marché public
alors
au moins mise en
conformité. Parfois, la chaise ou la machine à café, elle coûte deux ou trois fois moins cher.
Dans le magasin à côté de la
Dans le magasin à côté, ou si on va à la grande surface, ou si on la commande sur Internet, quoi. C'est ça.
Donc en fait, des économies, je pense que. Il y a vraiment possibilité d'en faire, c'est tout un fonctionnement qui doit être revu. Je pense pas qu'au niveau de la commune en elle-même, ça peut être fait s'il y a des lois qui sont faites au niveau national déjà.
C'est
déjà par là qu'on doit revenir.
Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ce que nous disait Marie-Pierre de Bailliencourt il y a quelques instants, c'est que chaque année, vous avez le rapport même des cours régionales des comptes qui dénoncent...
Chambre régionale des comptes,
tu as raison.
Qui pointe du doigt tout ça.
Qui pointe du doigt ces problèmes budgétaires, qui pointe ces excès de dépenses, le manque d'investissement dans le temps de travail effectif, etc. Ce n'est jamais suivi des faits. Là, par exemple, cette UGAP, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas elle est terminée, on arrête avec ça? Qui est à la tête de l'UGAP? Qui tient l'UGAP? Parce que c'est ça le problème. Plus 30%, je regardais sur certains investissements ou fournitures de bureaux par rapport au coût que payent les Français si tu vas acheter la chaise. Quoi.
Le problème, ce n'est pas tant l'UGAP que la réglementation sur les marchés publics.
Oui, mais c'est la réglementation à changer.
On est bien d'accord.
Alors, il faut reconnaître, par exemple, Anne Hidalgo, avait tenté de faire travailler plus ses agents puisqu'ils n'étaient pas aux 35 heures. Elle était hors la loi d'ailleurs. Elle n'avait pas tellement le choix parce que elle avait été déclarée hors la loi puisque la loi c'est 35 heures, c'est pas 32 heures. Mais ça a été un casse-tête parce que forcément il y a eu des menaces de grève et autres. C'est compliqué de changer des habitudes qui sont prises sur des années parce que à Paris, faut être honnête. Certes, Anne Hidalgo en est en grande partie responsable parce qu'elle a fait deux mandats, mais ça a commencé sous Delanoë. Il y a Bertrand Delanoë, on dit il est formidable, etc. Mais enfin, il a commencé à endetter. La ville sous son mandat. Et en fait, c'est des mauvaises habitudes qui sont ensuite reconduites de mandat en mandat.
Alors, ce qui est extraordinaire, je remercie Romain d'avoir été avec nous, parce que je regardais quand même l'UGAP, qui est l'Union des groupements d'achat public. C'est placé sous la tutelle du ministère chargé du budget. Donc, c'est-à-dire que le ministère du budget, qui lui-même contrôle les comptes publics, a sous tutelle un organisme où tu achètes plus cher et où tu endettes. Donc c'est un non-sens total.
Parce que c'est
un
système. Et moi, j'aimerais avoir une pensée pour les petites communes, parce que là, on parle des grosses communes qui dépensent sans compter, mais il y a dans notre pays de très nombreuses petites communes
l'argent.
Où ils ont fait le choix de toucher uniquement la DGF, donc ce qu'ils reçoivent de l'État, et de ne pas avoir de taxe foncière. Il y a des petites communes rurales où tu n'as pas de taxe foncière et où les gens disent, le week-end du 12, toutes les bonnes volontés, on va repeindre la porte de l'école, etc.
Il y a aussi beaucoup de petites communes qui gaspillent beaucoup d'argent public aussi.
Il y en a aussi. Mais ce que je veux te dire, c'est
s'endettent et qui font des travaux inutiles.
T'as la petite commune qui se tape un délire piscine et qui d'un seul coup bascule
le rond-point paysager. Oui, mais le fameux rond-point, vous savez, avec un truc horrible au milieu et qui coûte une fortune. Alors ça fait vivre l'entreprise locale, je comprends bien, le paysagiste du coin, il est content, mais...
C'était le gendre du maire d'ailleurs.
Il est alors il se trouve que c'est le gendre du maire et que celui qui a fait le rond-point, c'est son beau-frère, mais bon...
C'est ça, bien sûr.
Et oui.
Il y a le Parisien qui avait sorti un article intéressant sur ce fameux groupement des achats publics l'UGAP. Sur l'UGAP. Les chaises pliantes polyvalentes en plastique, 274 euros dans le catalogue de l'UGAP.
La chaise,
ça fait 68 euros la chaise, alors que le même modèle chez IKEA qui a les mêmes caractéristiques est à 14,99 euros l'unité.
Ouais, tout est
donc
dit.
14,99 euros la chaise sur le catalogue IKEA et tu la payes sur le catalogue de l'UGAP 68 euros. Montant total des achats publics chaque année par cet UGAP, 150 milliards.
Ouais. Ça fait peur, hein.
Ah bah t'as la réponse, tu sais où faire des économies. Il est 11h-25, on va continuer de parler argent, mais cette fois-ci via ce que dit l'épouse de Bernard Arnault, le multimilliardaire, l'un des hommes les plus riches du monde. Elle s'interroge, Madame Arnault, en disant mais où va l'argent des impôts? Où va notre argent? C'est au 32-16 que vous venez de discuter avec les grandes gueules, il est 11h-25.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story à 11h. Ne manquez pas l'enquête de Gilles Gallou. Gilles Gallou qui est enquêteur à l'Office central cybercrime de la police judiciaire. Et c'est lui qui a cherché, en fait, c'est lui qui a fait la traque numérique de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est-à-dire qui a cherché sa trace sur Internet, voir s'il avait pu vraiment s'évanouir, s'il n'a pas laissé une trace via une carte, via, vous savez, un téléphone,
un forum,
ou quoi que ce soit. Et lui, il est persuadé que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant et qu'il serait aux États-Unis. Alors, Gilles Gallou, il en a fait un livre, c'est aux éditions Max Milo. Il viendra nous raconter cette traque numérique de Xavier Dupont de Ligonnès tout à l'heure à 11h. En attendant, on va continuer de parler gros sous avec Antoine Diers, avec Elina Dumont et avec Charles Consigny à propos des déclarations d'Hélène Arnault, l'épouse de Bernard Arnault. Elle s'interroge et elle se demande ce qu'elle a fait chez nos confrères d'RTL, où va l'argent des impôts?
Paraît-il, oui, effectivement, beaucoup d'exagération au niveau des taxes en France. Je pense que ça enlève de la liberté et du respect à l'être humain que d'être trop assisté aussi. Moi, je suis pas pour ça non plus. Je sais que mon père détestait payer trop d'impôts. Moi, j'étais habituée à entendre ça, parce que c'est surtout où va l'argent, quoi. Le problème, il est là aussi. Il n'y a jamais moyen de vraiment vérifier où va l'argent, les dépenses, où elles vont. Et pour des gens qui sont très habitués, dont c'est le métier de gérer l'argent, ils ont l'idée que les politiciens n'ont pas ce même talent.
Voilà, Madame Arnault qui était interrogée par notre confrère Marc-Olivier Faugier.
Oui, alors on l'a jamais entendue quasiment. Pourquoi parle-t-elle? Parce qu'elle vient de sortir un disque, c'est une pianiste concertiste, hein, Hélène Mercier. Arnaud aujourd'hui, et donc elle vient sortir un disque, donc elle fait de la promo, donc elle est interrogée, forcément dès qu'elle parle, comme c'est la femme de l'homme le plus riche de France et l'un des hommes les plus riches au monde, forcément on écoute ce qu'elle a à dire. Alors il faut quand même rappeler qu'LVMH, en gros, il paye chaque année à peu près 5 milliards d'euros d'impôts, hein, si on prend la TVA, les impôts, etc. Donc c'est le premier contributeur fiscal LVMH. Alors peut-être qu'il devrait payer plus d'impôts comme le souhaiteraient certains, mais enfin on peut pas dire qu'LVMH ne paye pas d'impôts en France, d'autant plus que ça ne représente, je crois, que 20% le marché français des activités du groupe, qui est un groupe mondial et qui est surtout tourné vers les États-Unis, l'Asie, etc. Bref, et elle dit quoi? Elle dit, alors est-ce qu'elle est la mieux placée pour le dire? On va dire, bah oui, mais c'est la femme la plus riche, elle peut pas se plaindre d'une mauvaise utilisation de l'impôt, mais enfin je pense que là, du coup, elle se met au niveau de tout le monde, elle se dit, une question que beaucoup de monde se pose, mais où va notre argent? Elle-même, elle paye beaucoup d'impôts, la France, les Français... Une bonne partie des Français payent beaucoup d'impôts. Il y en a qui n'en payent pas, mais beaucoup en payent. Et c'est vrai, où va cet argent? Puisque chaque jour, on se plaint d'un manque de policiers, de magistrats, des hôpitaux vétustes, etc., etc.
Elle a raison, Madame Arnault.
Il y a deux débats. Il y a le fait d'en payer beaucoup. Mais là, surtout, le sujet, c'est, ouais, on en paye beaucoup, mais qu'est-ce qu'on a en échange? Dans la question où va l'argent, c'est pas forcément de dire qu'elle veut plus payer d'impôts. Non, elle en paye trop.
Elle ne dit pas.
Elle te dit qu'elle a pas le sentiment d'en avoir pour son argent, vu tous les efforts. Et je crois que c'est la vie de l'essentiel des Français. Qu'on soit petit contribuable, moyen contribuable ou gros contribuable, on a l'impression de faire des efforts importants. Pour ma part, l'impôt sur le revenu, c'est 2 mois de salaire. Tu vois, c'est absolument hallucinant. Chaque année, célibataire sans enfants, je laisse 2 mois de salaire. Et tu te dis, mais enfin, pour ça, qu'est-ce que j'ai en face? Et donc, je pense qu'on est sur le sujet du consentement à l'impôt. Tu peux consentir à en payer beaucoup à condition que tu aies du service. Et là, en France, on ne l'a plus. Et donc, tu sens que ton argent, il est volatilisé, dilapidé. Et donc, tu te dis, bah, écoutez, laissez-le-moi, je vais mieux l'utiliser.
50% de l'impôt, des impôts, c'est le système de protection sociale, hein, oui, aujourd'hui. Bien. 50%.
Les retraites notamment. Vous imaginez que l'impôt payé par le plus grand groupe de luxe au monde et par probablement la première entreprise contributive en France de parmi toutes nos entreprises, ça représente en gros, donc 5 milliards d'euros, ça représente à peu près le budget de France Télévisions. Mais non, mais pour vous dire où est englouti l'argent, c'est-à-dire que vous avez ce groupe considérable, que moi je trouve remarquable par ailleurs, qui fait bosser des gens, des artistes, des très grands savoir-faire, dans lequel il y a beaucoup d'exigences. C'est franchement quelque chose, je trouve, qui est vraiment à saluer, contrairement à ce que disent les esprits chagrins englués dans leurs idéologies. Et bah, tout ce boulot-là, ce qui va donner pour la collectivité, ça ne va servir que à payer les jeux de Nagui. Bah, excusez-moi, je pense que là, on a une partie du problème. C'est-à-dire que l'argent, il est en réalité gaspillé, l'argent public en France. Donc cette question, je comprends que ça puisse être désagréablement perçu par la plupart des gens, que quelqu'un qui, à l'évidence, vit dans un luxe extrême, s'interroge à voix haute dans les médias sur l'usage des deniers publics, etc., et même s'exprime tout court sur les questions de société.
En même temps, c'est normal que ceux qui payent beaucoup d'impôts s'interrogent aussi où va leur argent.
Tout à fait. Je comprends que ça puisse être mal perçu, mais je pense que la question est légitime, et surtout la question, énormément de Français se la posent. Il n'y a pas besoin d'être Madame Arnaud pour se demander où va l'argent qu'on dépense. Et je constate quand même que, pour l'instant, même si petit à petit ça fait son chemin, mais pour l'instant en France, la question de l'utilisation des deniers publics et de la fiscalité, des dépenses publiques dans leur ensemble et de la fiscalité, elle n'est pas encore la question qui est sur le devant de la scène politique. Regardez ce qui s'est passé sur le budget, par exemple. Les hommes et femmes politiques au pouvoir dans notre pays se sont joyeusement assis sur la nécessité de réduire nos dépenses publiques. Au contraire, ils les ont augmentées. Et c'est comme ça qu'ils ont sauvé leur place. Et dans le panorama actuel des candidats à la présidentielle, le favori de l'élection, qui à ce stade, même si c'est fictif, se trouve être le jeune Bardella, il n'a pas beaucoup de réduction de dépenses publiques dans son programme. Ce n'est pas du tout sa priorité. En tout cas, ce n'est pas la priorité du RN. Donc, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est la priorité des Français, mais que ce n'est pas encore la priorité du monde politique.
Mais
peut-être les deux vont se rejoindre.
Le Parlement, il a une responsabilité, c'est aussi de contrôler l'utilisation des deniers publics. Et il y a cette commission d'enquête sur France Télé. Et je me dis, enfin, des députés qui vont contrôler ce qu'on fait de l'argent, mais ça déclenche des tollés. Certains disent que ce n'est pas leur rôle.
Certains crient au nazisme.
Attends, Ina, parce que je voudrais dire, il y a Jérôme qui vient d'arriver
sur le sujet
au 32-16. Il est
Te garde sur Dupont de Ligonnès.
Il est du côté de la Gironde. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Directeur informatique. Est-ce que vous êtes d'accord avec le raisonnement d'Hélène Merci Arnaud alors?
Moi je suis entièrement d'accord, surtout que moi je suis vraiment concerné pour le coup. Pour information à la base, je viens quand même de toute la base. J'étais informaticien de base il y a 15 ans. J'ai eu la chance en travaillant, en reprenant mes études et tout ça, de passer directeur informatique d'un gros groupe pharmaceutique. Donc j'ai multiplié mon salaire par 4. Donc aujourd'hui je paye 24 000 euros d'impôts par an.
Donc, c'est pas mal.
24 000 euros d'impôts par an, je suis handicapé à 90%, j'ai une spondylarthrite, donc j'ai une maladie incurable. Et aujourd'hui, on m'a quand même sorti la phrase, je suis cotisant non bénéficiaire. Donc, au bout d'un moment, moi, il faut savoir que ça me prend 2 secondes, vu que je suis en télétravail, de partir à Malte.
40% des Français.
Ouais.
Ça me prend à peu près 10 secondes de partir à Malte, d'économiser ces 24 000 euros par an et de m'acheter un logement en 4 ans amorti sur mes impôts, puisque je suis en 100% télétravail. Donc au bout d'un moment, oui, moi j'ai pas
vous
de problème.
Y pensez, si je... Vous y pensez de partir à Malte ?
Non, parce que j'aime trop mon pays et que je continuerai à résister et à payer. Mais au bout d'un moment, ça commence à me gratter quand même, et je pense que ça gratte pas mal de monde, parce que c'est normal, une entreprise privée serait déjà sous tutelle ou aurait déjà déposé le bilan. Faut pas déconner au bout d'un moment. Faut arrêter. Et quand on dit à des gens qui s'efforcent de travailler, alors que je pourrais être à l'âge et je pourrais rien faire, hein, mais j'aurais pas de train de vie aujourd'hui, quand on dit à des gens qui s'efforcent de travailler, de cotiser, de pas être un boulet pour la société, et qu'on leur dit vous êtes cotisant, non bénéficiaire, cette phrase, elle est ahurissante. Elle est à gerber.
Oui, mais vous voyez, Jérôme, c'est intéressant ce que vous dites, parce que effectivement, selon les études, il y a 40% des Français qui contribuent et ne sont pas bénéficiaires, c'est-à-dire qu'ils donnent plus que ce qu'ils reçoivent. Il y a quand même 60%, c'est l'inverse. Donc finalement, pour les 60% des Français, ce système n'est pas à remettre en cause. Et les 40% étant minoritaires, ils ont beau râler, comme Madame Merci ou d'autres, de toute manière, ils n'auront jamais gain de cause. Donc,
Il n'y a pas besoin d'avoir fait de maths sup pour comprendre que si on prend plus qu'on donne, il y a un moment où on se casse la gueule.
Je suis d'accord avec vous. Oui, mais tant que le système va satisfaire une majorité de gens, c'est difficile de dire, attendez, on arrête tout. D'ailleurs, vous verrez, moi j'attends voir l'élection présidentielle, mais quels seront les candidats qui vont remettre en cause profondément ce système, effectivement, d'imposition massive.
Parce que je rejoins ce que disait Charles. Aujourd'hui, on a une politique et un système où ils sont là pour sauver leur ticu. Ils sont pas là pour le bien commun ou autre. Ils sont là pour sauver leur place. Moi, j'en ai marre d'entendre des gens qui, dans les débats, se prennent la tête et disent « Oui, mais lui, je l'aime pas parce que lui a fait ci, machin. » Non, parlez des sujets des Français, trouvez des solutions, des consensus et arrêtez vos conneries au bout d'un moment. Faut pas déconner. Je veux dire, les gens, vous allez les pousser à partir de la France. Et moi, je reste parce que j'aime mon pays et parce que j'ai ma fille. Et ça, si j'aimais pas autant mon pays, ça fait longtemps que je me serais barré. Je vous dis, en 4 ans, je m'achète une maison à 100 000 euros en économisant 4 ans d'impôts. La maison, elle est gratuite pour moi.
Ouais, bien sûr. Mais Jérôme, on a un autre coup de gueule qui vient d'arriver, celui d'Hervé, qui est chef d'entreprise. Bah, tiens, c'est un voisin. Il est du côté de Libourne, en Gironde. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Vous venez d'entendre le coup de gueule de Jérôme, mais tout est parti de ce que dit Madame Arnaud. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, alors, Jérôme?
Elle me rappelle à une autre époque d'Anil de Rothschild. Je sais pas à cette époque-là, vous savez, elle avait un discours très apaisant, je trouve, et assez réel et sans ce côté hautain qu'on peut penser, en tout cas. Moi, dans ce qu'elle a dit hier, parce que j'ai écouté l'interview, tout était censé, et je trouve qu'aujourd'hui, les seuls qui peuvent se permettre de faire des commentaires, malheureusement, avec Jérôme, on est deux ce matin, c'est les chefs d'entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les seuls qui respectent les règles, qui payons les gens, qui payons les impôts, et qui derrière devons faire des sacrifices quand on a besoin des sacrifices, parce qu'il y en a un qui va nous rappeler à la fin de l'année, si ça va pas, c'est le banquier. Les politiques aujourd'hui qui gèrent, alors malheureusement, ce matin, vos sujets, ils sont que sur l'argent et que sur la gestion. Les mairies...
C'est vrai.
Les mairies, je vais parler de mon département, la Gironde, ils sont pas bien, la région, elle est pas bien, et le gouvernement, elle est pas bien. Pourquoi? Parce que ils ont l'argent à foison. Il y a pas de réglementation. Les cours des comptes, elles servent de police, mais elles ont aucun agissement nécessitant de dire OK, ça doit s'arrêter, vous avez plus d'argent, il faut rembourser, il faut payer vos dettes, vous pouvez plus dépenser si vous arrivez pas à créer de la richesse. Les seuls qui le font aujourd'hui, ce sont les entreprises. Et ce sont les entreprises qui financent. Aujourd'hui, qui financent. Et les salariés qui touchent les salaires, qui financent derrière. Vous parliez des 40-60, ça va continuer. Alors qu'est-ce qui va se passer? Rassemblement national, peut-être aux prochaines élections? Peut-être qu'il faut que ça change, mais est-ce que ça va véritablement changer?
Sauf que le Rassemblement National ne propose pas véritablement une cure d'amaigrissement.
Parce que c'est le haut fonctionnariat qui va continuer à gérer le centre, et tant qu'on n'aura pas décidé d'affermer le robinet et de dire « l'argent, il n'y en a plus, il faut trouver des solutions », comme on le fait dans les entreprises. Quand il y a moins de chiffre d'affaires, le contrat pour les nettoyages de tapis, le contrat pour l'eau, le contrat pour le café, on arrête et on va acheter la machine à café. Alors on passe pas par les grands organismes comme les mairies, on va l'acheter au magasin du coin de faire en sorte de trouver des solutions, d'acheter mieux. Alors parce que quand à un moment donné on a moins d'argent, il faut mieux acheter et il faut moins dépenser.
C'est ça, il faut faire des économies, réduire son train de vie.
Aujourd'hui, le seul mot qui devrait intéresser l'ensemble des politiques, c'est économie. l'économie, personne n'en parle, et de en faire des économies. Voilà.
Hervé, Jérôme, là, par rapport à ce que vous disiez, c'est exactement le sujet qu'on a abordé il y a quelques minutes à propos des mairies, des investissements et des économies qu'il y avait lieu de faire. Je vous remercie d'avoir été avec nous tous les deux. Merci Jérôme, merci Hervé d'avoir été dans cette discussion.
Tu peux pas dire une phrase?
Pardon, Elina. Effectivement, mais là c'est terminé. Et dans un instant, Gilles Gaillou avec c'est nous censuré, pour parler Elina. De Xavier Dupont de Ligonnès.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.